il est midi 2. Voici maintenant dans cette édition de la mi-journée toute l'info prête chez vous et c'est présenté par Fabien Gazeau. Bonjour Fabien.
Bonjour David, bonjour à tous. Les premiers mots du nouveau recteur de l'Académie de Poitiers. Ce matin, Frédéric Périssa a détaillé ses priorités autour de la réussite des élèves. Il a aussi insisté sur sa volonté d'accompagner les personnels de l'éducation nationale. Les conviviales d'automne, le rendez-vous des éleveurs charolais dans le contexte que l'on connaît pour les agriculteurs, ce sera les 7 et 8 novembre à Bocapaule. La Buissonnante œuvre sur la préservation et le développement des végétaux locaux. Au-delà de ses missions pédagogiques, l'association a développé une pépinière pilote. Les vacances de la Toussaint sont animées au rocher branlant de l'Arjas qui se bat toujours avec les injonctions de la Dréal. Enfin, la Romagne espérait recevoir les frères Lebrun ce soir à la MRM, mais il faudra faire sans les nouvelles coqueluches du sport français. Frédéric Périssa s'est présenté ce matin devant la presse quelques jours après avoir pris son poste à Poitiers à la tête de l'Académie. Successeur de Bénédicte Robert, il représente désormais l'éducation nationale en Deux-Sèvres, dans la Vienne et les Deux-Charentes. Il a brièvement déroulé son parcours, précisant que ce Bordelais d'origine avait d'abord été instituteur avant d'intégrer l'ENA et d'embrasser une carrière préfectorale depuis 27 ans. Il a dans les derniers mois travaillé sur les JO et sur la crise à Mayotte. Frédéric Périssa devient donc recteur de l'Académie de Poitiers avec la mission d'œuvrer pour la réussite des élèves. Le nouveau recteur a aussi insisté sur une autre priorité liée au personnel de l'éducation nationale.
Nous devons avoir une gestion des ressources humaines plus personnalisée, qui soit attentive à nos agents. Le métier d'enseignant, c'est un des plus beaux métiers que l'on puisse exercer. Il faut qu'on redonne de l'attractivité à ces métiers, au-delà de l'aspect de la rémunération qui n'est pas du ressort du recteur. C'est tout le travail sur la formation initiale des enseignants, la formation continue, l'accompagnement du parcours des enseignants, mais également des autres personnels de l'éducation nationale. Donc voilà, on a une gestion des ressources humaines qui doit être plus dynamique, qui doit être plus personnalisée, plus proche de chacun. Et c'est là-dessus que je souhaite mettre l'accent.
Le recteur a indiqué sa volonté de rencontrer rapidement les syndicats enseignants. Le dialogue social est fondamental, souligne Frédéric Périssa, qui a été interrogé également ce matin sur l'annonce par le ministère de la suppression de 4000 postes d'enseignants pour 2025. Alors que la baisse démographique revient très vite pour justifier ces suppressions, le nouveau recteur semble vouloir prendre un peu de distance avec cet argument.
Je ne souhaite pas que l'on fasse un raccourci trop rapide entre baisse démographique et baisse des besoins. J'évoquais tout à l'heure la nécessité de renforcer les acquis fondamentaux, la mise en œuvre des groupes de besoins, la prise en charge des élèves souffrant de handicap. Tout ceci nécessite des moyens complémentaires. Donc, il y a bien sûr cette réfaction démographique. Il y a le besoin qui a été exprimé par le gouvernement de réduire le nombre d'emplois dans la fonction publique. Mais tout ça, voilà, nécessite d'être travaillé.
Le premier déplacement de Frédéric Périssa en tant que recteur de l'Académie de Poitiers se fera en Deux-Sèvres, dans l'école maternelle des Briseaux, à Niort. Il devrait aussi participer mardi prochain à la pose de la première pierre des travaux de restructuration du collège Gérard Philippe, également à Niort. Les aléas météorologiques et les crises sanitaires à répétition n'ont pas eu raison de la motivation des éleveurs à participer au convivial d'automne des 7 et 8 novembre prochains à Bressuire.
Ah oui, il faut reconnaître que depuis un an, on a surtout cumulé à peu près le double de pluviométrie d'une année normale, avec toute la complexité que ça engendre. Et puis, depuis l'été, là, s'y associe d'épisodies, à savoir donc la MHE, la FCO. Là, du coup, ça complique un peu le quotidien des éleveurs. Malgré tout, on a la chance que on se retrouve tous sous la même zone réglementée certes, mais on est tous dans la même zone. Et en fait, aucun éleveur ne sera laissé de côté, en fait.
La motivation, elle est là, grâce aussi à un cours de la viande qui reste plutôt stable et plutôt intéressant depuis l'année dernière.
Oui, on a des cours qui sont quand même revenus. Le kilo de carcasse pour les vaches à 5,50 €, bien plus acceptable que ce qu'on a connu il y a quelques années.
Emmanuel Turpot et Catherine Gallard, que vous venez d'entendre, sont les co-présidents des Conviviales d'automne qui vont accueillir 26 éleveurs des Deux-Sèvres pour les deux tiers, mais aussi de la Vienne, Charente-Maritime, Vendée, Maine-et-Loire et Loire-Atlantique. Ils présenteront 130 animaux pour tenter de décrocher l'un des 9 prix mis en jeu lors du concours charolais d'animaux reproducteurs du jeudi 7 novembre.
On est d'abord et avant tout dans le bocage bressurien, donc une zone d'élevage importante et une zone où la race charolaise est présente, à hauteur d'une vache allaitante sur deux, à quelque chose près. Donc évidemment, on a autour de nous des adeptes de la génétique, des adeptes des concours, hein, qui suivent les concours, et puis aussi qui viennent tout simplement voir les évolutions qu'il peut y avoir dans les élevages.
8 éleveurs de Bavière viendront grossir les rangs pour un trophée international, une bonne manière de faciliter les transactions à venir avec l'Allemagne. Et pour que les Conviviales d'automne tiennent tout à fait leur rang cette année encore, la petite touche de convivialité chère aux organisateurs sera elle aussi de la partie.
C'est vrai que c'est un concours où on se sent bien. Tout se passe dans la même salle. La présentation des animaux, le concours, la restauration.
Eh bien, je pense qu'on essaie de recevoir les éleveurs comme il le faut. Le concours est condensé sur une journée. Et puis en même temps, on associe aussi nos 130 partenaires locaux en les invitant à un dîner le soir du concours. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi les remercier d'une façon convenable.
Une belle vitrine que cette 27e édition des Conviviales d'automne dans la halle du Poitou à Beaucapaule, Bressuire, ouvert dès le jeudi 7 pour les concours et qui se poursuivra le lendemain, le vendredi. Manifestation ouverte à tous avec repas le vendredi midi. Comme d'habitude, en lien avec le lycée des Sicaudières, la Rouge des Prés fera sa belle avec une petite dizaine d'animaux en présentation. La Buissonnante œuvre sur la préservation et le développement des végétaux locaux, créés en 2021, l'association basée au fin fond du campus des Sicaudières, dans des bureaux voisins de Bocage Pays Branché. L'association et le campus sont d'ailleurs des partenaires étroits. La Buissonnante s'inscrit dans deux domaines d'activité, l'éducation à la nature d'une part et la pépinière associative d'autre part. En fin de semaine dernière, un cycle de formation se terminait pour une dizaine de stagiaires. Dépositaire de la marque végétale locale, la Buissonnante s'attache à préserver les essences historiquement présentes sur le territoire, du cornier sanguin au troène, en passant par le noisetier, le sureau ou l'érable champêtre. Benoît Manceau est le coordinateur de la Buissonnante.
C'est autour du végétal local, donc on a créé une pépinière dès la création de l'association, avec la volonté effectivement de pouvoir aussi former d'autres personnes et que du coup on ait aussi plusieurs acteurs sur le territoire en capacité de produire du végétal en filière tracée.
Alors oui, cette pépinière elle a vraiment une vocation particulière, celle de la préservation et le développement du végétal local.
Oui, c'est ça. En fait, du coup, ce qu'on voit dans les filières classiques, en fait, on n'a pas de maîtrise de l'origine génétique des plants. Et là, en filière végétale locale, on mise beaucoup sur la traçabilité et l'origine des plants, le fait d'aller collecter sur un grand nombre d'individus pour avoir un brassage génétique et avoir des plants qui sont en capacité de s'adapter quand on les remet dans des projets de plantation de haies. Ils vont s'adapter au sol et au climat.
Pour ce faire, la Buissonnante collecte des graines dans les haies antérieures aux années 70. C'est le point de bascule puisque cela correspond au développement du commerce mondial. La Buissonnante forme donc des stagiaires pour les aider dans cette mission de préservation et de développement du végétal local.
Nous, on n'a pas vocation effectivement à répondre à tous les besoins du territoire. L'idée, c'est plutôt, on pense plutôt qu'en étant plusieurs, on sera plus fort et puis du coup, ça permettra de développer ces démarches là. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir une multitude de petites pépinières de territoire et de pouvoir aussi diffuser les savoir-faire.
Ah, il faut les encourager hein, parce que les pépinières ont tendance à disparaître. Hein. Certains s'arrêtent et ne sont pas forcément repris.
Bah effectivement, c'est un secteur qui peut faire un peu peur parce que les conditions de travail peuvent être parfois un peu difficiles et aussi économiquement, avant d'avoir une assise économique, bien souvent il faut 2 à 3 ans et il y a de la concurrence. C'est un domaine où il y a beaucoup de concurrence, notamment des pays étrangers. Et donc le fait d'avoir des productions plus locales, on pense effectivement que ça va effectivement permettre un nouvel essor de l'horticulture, notamment sur le territoire nord de Sèvres.
La Buissonnante grandit donc comme un jeune plant, encore jeune, puisque la création remonte à 2021. L'association, qui compte un deuxième salarié en la personne de Timothée Pitot, est présidée par Pauline Viau, avec autour d'elle un conseil d'administration d'une dizaine de personnes. Des vacances de la Toussaint très animées au Rocher Branlant de l'Arjas. Anthony Baron, alias l'homme des bois, adore jouer à faire peur et propose donc pas mal d'animations à l'approche d'Halloween, avec un certain succès puisque les stages de sorcières affichent complet pour les plus jeunes. Pour les ados et les adultes, c'est la soirée du 31 octobre qui se prépare avec la marche des zombies et l'escape game. Anthony Baron.
On fera une marche zombie, donc là, survivant contre zombies, pas en dessous de 15 ans quand même, parce que ça va bouger un petit peu. Et voilà, l'énorme temps fort et la nouveauté de cette année, c'est l'escape game. On fait un thème horreur circus show avec la sortie du Joker. Donc voilà, ça va être un escape game qui va se dérouler sur une quinzaine de minutes. Il y aura des cascadeurs, voilà, il y aura des personnes en feu, il y aura, voilà, ça va bouger un petit peu dans tous les sens.
Comment ça se passe concrètement ?
Alors concrètement, pour la marche zombie, c'est le soir d'Halloween, à partir de 21h, donc il faut s'inscrire pour être sûr d'avoir une place, parce qu'à un moment donné, on va arrêter les inscriptions. Et l'escape game, même chose, c'est des créneaux de 20 minutes. Donc toutes les 20 minutes, on a un groupe qui part, et toutes les 20 minutes, il y a une vague de frissons qui déferle sur le rocher.
Anthony Baron a remis sur pied le Rocher Branlant et ses vertus à proposer des animations sur un site qui était abandonné et parfois même squatté. Il attend toujours les autorisations de la DREAL pour recevoir les enfants sur des camps de vacances, par exemple, soutenus par les élus locaux. Il fait face à l'administration.
On a eu toutes les autorisations pour faire ce projet avec l'agglo, avec la commune. Une fois le projet monté, c'est à ce moment-là que la DREAL a toqué à la porte et s'est dit non, moi je veux plus ça, je veux plus ci, je veux plus ça. Et le souci, c'est que voilà, tout était déjà enclenché et qu'il n'y a eu aucun moment on nous a donné la main pour nous dire voilà, s'il fallait une autorisation, par exemple pour mettre un potager en route, donnez-moi le dossier, on le fait. Et même encore aujourd'hui, je peine à trouver ces informations parce que j'envoie des mails aux différentes instances et j'ai toujours zéro réponse. Donc c'est vraiment le problème.
Alors c'est surtout pénalisant dans l'accueil des enfants.
Oui, oui, tout à fait, parce qu'on avait toutes ces autorisations de l'agglo pour recevoir les colonies de vacances. Voilà, il y a une parcelle qui est dédiée, ça a été ratifié par un cabinet de conseil pour le plan local d'urbanisme, donc le PLU. On a le droit de recevoir ces enfants-là sur cette parcelle précise, mais l'ADREAL, voilà, rend tout un petit peu caduque sans avancer plus d'informations que ça, quoi.
Anthony Baron, qui en attendant tous les feux verts de la DREAL, propose des vacances de la Toussaint très animées. Vous pouvez encore vous inscrire pour la marche des zombies et l'escape game du 31 octobre. De la frustration à coup sûr ce soir à la Meilleraie de Cholet, on parle de Pro A et de tennis de table. La Romagne reçoit l'Alliance Nîmes-Montpellier, qui compte dans ses rangs les frères Lebrun, nouvelle coqueluche du sport français. Le match avait été déplacé à la Meilleraie pour répondre à l'engouement du public, puisque les 4600 places disponibles ont été vendues rapidement. Or, les phénomènes Félix et Alexis Lebrun ne seront pas du voyage. Si la déception est légitime du côté du club des Mauges, son président Guy Soulard stigmatise aussi la position de la fédération.
Ils cumulent les performances, donc c'est bien pour eux. Ils ont un calendrier hyper chargé, ils ont fait des grosses performances là, dans les 15 derniers jours. On peut les comprendre qu'ils aient besoin de souffler. Après, nous, on joue l'équipe Nîmes-Montpellier, ils font ce qu'ils veulent dans leur composition d'équipe. Quoi. C'est regrettable pour nous, parce que c'est beaucoup d'investissements pour ne pas les recevoir. Voilà, bon, ils sont bien conscients que bon, c'est problématique, parce que remplir une salle à 4600 places et puis ne pas être présent, ça pose problème. Mais bon, Je pense que notre fédération, il va falloir qu'elle revoie sa copie, elle aussi. Le calendrier est mal établi. Aujourd'hui, c'est un peu les clubs qui font leur calendrier entre eux. Il faut que notre fédération, elle soit arbitre sur des problèmes comme ça. C'est quand même nos deux meilleurs joueurs français. Donc, c'est très dommageable pour notre discipline.
Quoi qu'il en soit, la Romagne accueille Nîmes-Montpellier pour le compte de la troisième journée de Pro A. Et ce sera quand même du très haut niveau, même sans les frères Lebrun, coup d'envoi à 19h30 ce soir. Les pensionnaires habituels de la Meilleraise jouent, eux, en Allemagne. Dans le même temps, Cholet Basket est attendu à Fribourg en FIBA Eurocup, coup d'envoi de la rencontre à 19h.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Le soleil devrait pouvoir se montrer timidement en deuxième partie de journée avant que les nuages ne reprennent le dessus en soirée. Les températures maximales aujourd'hui autour de 16-17 degrés. Demain, on devrait retrouver à peu près les mêmes données avec du brouillard le matin et quelques éclaircies ensuite. Le soleil devrait pouvoir s'imposer plus franchement en fin de semaine à partir de jeudi. Toute l'info près de chez vous revient désormais ce soir à 18h avec Patrice Bémanangy. Bon après-midi.
C'était la météo avec Seolis, votre fond.